Le commandement suprême de l'armée maintient sa demande, formulée dimanche 29 septembre 1918, d'une offre de paix immédiate à nos ennemis. Il vaut mieux cesser la lutte pour éviter au peuple allemand et à ses alliés des pertes inutiles. Chaque journée perdue nous coûte des milliers de braves soldats. Lettre du maréchal Paul von Hindenburg au chancelier allemand Max de Bade, le 3 octobre 1918.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Au milieu de l'été 1918, l'Allemagne impériale se rend progressivement compte que la poursuite d'une guerre mondiale est désormais inutile. Ces grandes offensives du printemps ont remporté des succès locaux indéniables, mais n'ont pas rompu le front allié. Sa dernière grande offensive en juillet a été, elle, un véritable échec. Aussi, au mois d'août, ce sont les Alliés qui prennent l'initiative. Le 8 août, journée noire pour l'armée allemande, selon les propos du général Ludendorff, les armées impériales perdent 30 000 morts et surtout des prisonniers, signe d'un début peut-être de relâchement moral des troupes allemandes qui se battent depuis 4 ans. Le 14 août, Ludendorff, qui pourtant a longtemps espéré une victoire, estime qu'il n'est plus possible d'espérer briser la volonté de nos ennemis par des actions offensives. Mais Ludendorff garde l'espoir de pouvoir tenir jusqu'au printemps 1919 et ainsi peut-être bénéficier de la lassitude des alliés. Pour sa part, l'empereur Guillaume II envisage d'entamer des négociations en s'adressant aux gouvernements neutres que sont les gouvernements espagnols et néerlandais. Celui-ci répond à la demande du Kaiser en expliquant qu'il faut d'abord que l'Allemagne en fasse une demande officielle. Tout le mois de septembre passe finalement sans que des initiatives soient significativement prises. Le 2 octobre, un nouveau chancelier est nommé. Il s'agit d'un prince libéral, Max de Bade. Il est investi par le Reichstag pour la première fois dans l'histoire politique de l'Empire allemand. Entre le 1er et le 3 octobre, les grands responsables militaires, en particulier le commandant-chef des armées allemandes, le maréchal Paul von Hindenburg, demandent que des offres de paix soient faites. Mais il ne s'agit pas encore d'armistice. Le 4 octobre, le chancelier de Bade s'adresse à Wilson, le président américain, afin qu'il prenne en main le rétablissement de la paix. Le chancelier écrit « En vue d'éviter une plus longue effusion de sang, le gouvernement allemand propose la conclusion immédiate d'un armistice général sur terre, mer et dans les airs. » Le président américain répond à cette initiative allemande qu'il s'agit néanmoins de montrer sa bonne volonté. Il faut que les territoires occupés soient évacués et il ne veut pas avoir affaire aux autorités impériales qui, à ses yeux, sont responsables du conflit. Le 17 octobre, un grand conseil impérial se tient en présence de l'empereur, du chancelier, des principaux responsables militaires. Aux yeux de Ludendorff, finalement, les demandes alliées sont extrêmement dures et ça ne peut pas être pire que ce qui est demandé. Le chancelier cinglant lui répond « Oh si, ils envahiront l'Allemagne et ils dévasteront le pays. » Le 24 octobre, le général Ludendorff démissionne. Il faut attendre le 27 octobre pour que le gouvernement allemand accepte officiellement l'armistice. Reste à discuter avec les alliés. Ces discussions ont lieu du 1er au 4 novembre. Les alliés font connaître leurs conditions. Elles étaient prévisibles. Elles sont rudes. Évacuation de tous les territoires occupés par les armées allemandes. Installation de têtes de pont de troupes alliées sur la rive droite du Rhin. Livraison de la flotte. et du matériel lourd de l'armée allemande. Ces conditions sont communiquées le 5 novembre, avec, en plus, le maintien du blocus qui affame l'Allemagne. Car il est un élément important à souligner, c'est que le front intérieur est déterminant. Or, depuis déjà plus d'une année, le blocus maritime fait sentir ses conséquences sur la population allemande, qui a faim, qui manque de produits de première nécessité. En tout cas, les propositions faites par les Alliés sont claires. Il s'agit bien d'un armistice qui annonce déjà une paix victorieuse.
La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas, et du nord au midi, la trompette.
L'armistice ne va pas être négocié et les Allemands devront signer un texte déjà préparé à l'avance. Il est vrai que les Alliés peuvent jouer sur une dislocation des Alliés de l'Allemagne et également sur une crise profonde que traverse l'Allemagne elle-même. Le 29 septembre, la Bulgarie avait déjà signé un armistice avec les Alliés. Les Turcs font de même le 30 septembre. Quant à l'Empire austro-hongrois, ou plutôt ce qu'il en reste, eh bien, il signe un armistice avec l'Italie le 4 novembre. Ainsi, au début du mois de novembre, l'Allemagne ne dispose plus d'alliés. Elle ne peut donc raisonnablement plus continuer le combat. Le front intérieur, dont il a été fait allusion tout à l'heure, craque lui aussi. On assiste à des mutineries dans des unités de la flotte à Kiel. Le 5 novembre, une grève générale et visiblement de type insurrectionnel est déclenchée dans le pays. Deux jours plus tard, le 7, une révolution éclate à Munich. La question du maintien de l'empereur sur son trône se pose. Guillaume II hésite. Doit-il quitter le pays après une abdication? À qui remettre le pouvoir? Finalement, l'état-major le pousse à l'abdication, car les militaires comprennent qu'il n'y aura pas de paix possible tant qu'il y aura le gouvernement impérial, car les alliés sont intransigeants sur ce point. Guillaume II doit partir. Le 9 novembre, l'empereur Guillaume, après 30 ans de règne, abdique. Il se présente à la frontière néerlandaise et, de manière très chevaleresque, remet son épée à un douanier hollandais, quelque peu dépassé par la situation. La délégation allemande se présente donc au quartier général des Alliés pour signer l'armistice. Parmi les signataires, on compte des personnalités, certes respectables, mais de second rang. Le comte Alfred von Obendorf, le général von Winterfeld, le capitaine Wanzlow. Mais la personnalité la plus importante de cette délégation, c'est un député catholique, Matthias Esberger, qui sera ensuite ministre des Affaires étrangères. Ils espèrent négocier. La délégation alliée, conduite par le maréchal Foch, fait comprendre qu'il ne peut pas y avoir de négociation et qu'il s'agit de signer l'armistice, sans discussion possible. Côté allié, c'est le maréchal Foch qui est la personnalité la plus importante. Il commande les armées alliées et est donc le généralissime. Il est secondé par l'amiral britannique Wemyss, qui est premier lord de l'amirauté britannique. Les Allemands rentrent dans le wagon du maréchal vers 1h du matin, le 11 novembre. L'armistice est signé à 5h10. Comme il était prévu, les territoires occupés seront intégralement évacués. L'armement lourd et les unités de la flotte seront livrées. À vrai dire, la flotte se sabordera quelques jours plus tard. Et les Alliés installeront sur le Rhin des garnisons pour faire pression. La Première Guerre mondiale est terminée, mais elle aura fait encore une dernière victime. Le dernier soldat français tué durant cette guerre est tombé le 11 novembre à 10h50, alors que le cessez-le-feu commençait à 11h. Il s'agit de Pierre-Augustin Trébuchon, qui est mort d'un éclat d'obus sur la Meuse. Les autorités ont signalé à la famille qu'il était tombé le 10 novembre. Il est tellement difficile d'annoncer à des parents que leur fils est décédé 10 minutes avant la proclamation de l'armistice.